comme dans un livre. Marie-Christine Loubry. Dracula, de Bram Stoker. Roman traduit de l'anglais par Lucienne Molitor. Journal de Jonathan Harker, 2 octobre, suite. Je trouvais tous les autres réunis. Mina, toujours très pâle, paraissait encore fatiguée, mais elle fit un visible effort pour montrer de la gaieté. Cela me déchirait le cœur de penser qu'il me fallait lui taire tant de choses et que, de ce fait, son inquiétude s'aggravait. Dieu merci, c'est le dernier soir qu'elle assiste à nos réunions avec ce sentiment, combien amer sans doute, de ne plus être notre confidente. Pour ma part, il me faut beaucoup de courage pour tenir ma sage résolution. Toutefois, Mina, elle, semble parfaitement accepter cette situation. Ou bien est-ce que toute cette aventure lui répugne à présent ? Pour peu qu'on y fasse allusion devant elle, on la devine qui frémit. Heureusement, nous avons pris notre décision à temps, car nos découvertes progressives auraient finalement été pour elle une véritable torture. Je devais attendre d'être seule avec le docteur Seward et nos autres amis pour leur faire part de ce que je venais d'apprendre. De sorte qu'après le dîner, et après avoir fait un peu de musique afin de sauver les apparences, même pour nous-mêmes, je montai avec Mina, puis je la laissai se mettre au lit. La chère enfant se montra pour moi plus tendre que jamais, noua ses bras autour de mon cou comme pour m'empêcher de la quitter à nouveau. Mais j'avais beaucoup de choses à raconter à ceux qui m'attendaient en bas, et je dus bien la laisser seule. Grâce à Dieu, malgré le silence que nous observons sur certains sujets, rien n'est changé entre elle et moi. Quand je redescendis, le docteur Seward et ses amis étaient assis autour du feu, dans le bureau du docteur. Je leur lus les pages de mon journal que j'avais écrites dans le train et qui relataient ma journée. Lorsque j'eus terminé, Van Helsing déclara « C'est une importante découverte, Jonathan. À n'en pas douter, nous allons retrouver ces caisses. Si elles sont toutes dans cette maison de Piccadilly, notre travail est presque accompli. D'autre part, si quelques-unes manquent encore, nous devrons les chercher et les retrouver, elles aussi, à tout prix. Il ne nous restera plus alors qu'à porter notre coup final et acculer le monstre à sa mort véritable. » Nous restâmes tous silencieux un moment, puis, soudain, M. Morris demanda. « Dites-moi, comment ferons-nous pour entrer dans cette maison ?»« Nous sommes bien entrés dans l'autre, » répliqua vivement Lord Godalming. « Voyons, Art, il ne s'agit pas du tout de la même chose. À Carfax, nous sommes entrés en crochetant la serrure, mais nous avions, pour nous protéger, la nuit et un parc entouré de murs. Il faudra nous y prendre tout à fait autrement si nous voulons nous introduire dans une maison de Piccadilly, que ce soit de jour ou de nuit. J'avoue que je ne vois pas comment nous y parviendrons, à moins que cet amour d'employé ne puisse nous procurer une clé. Peut-être serons-nous fixés sur ce point quand vous recevrez sa lettre demain matin. » Les sourcils froncés, Lord Godalming se leva et se mit à faire les 100 pas dans la pièce. Tout à coup, il s'arrêta et, se tournant vers chacun de nous, l'un après l'autre, « Quincey a parfaitement raison, dit-il. Cette affaire sent trop le cambriolage et devient des plus sérieuses. Nous nous en sommes tirés une fois, mais maintenant nous allons nous trouver devant une difficulté réelle, à moins que, en effet, nous ne puissions, d'une manière ou d'une autre, obtenir les clés du compte. » Comme de toute façon nous ne pouvions rien faire avant le lendemain matin et qu'il était sage d'attendre que Lord Godalming ait reçu des nouvelles de la firme Mitchell, nous décidâmes de ne prendre aucune résolution avant le petit déjeuner. J'en ai profité pour relater dans mon journal les dernières heures de cette journée. Je suis très fatiguée, je vais me coucher. Encore quelques mots pourtant. Mina dort profondément et sa respiration est régulière. De petites rides apparaissent sur son front, comme si même dans son sommeil, un souci la poursuivait. Encore très pâle, elle paraît pourtant être mieux que ce matin. Demain, je l'espère, elle sera tout à fait remise quand elle se retrouvera chez elle, dans notre maison d'Exeter. Oh, que j'ai sommeil. Journal du docteur Seward, 1er octobre. De nouveau, je ne sais que penser au sujet de Renfield. Il change d'humeur à tout moment, aussi ai-je à peine le temps d'essayer de saisir pourquoi il se comporte de telle ou telle façon. D'autre part, comme ses sauts d'humeur ne dépendent pas uniquement du bien-être qu'il ressent, l'étude de ses caprices me paraît du plus haut intérêt. Ce matin, quand je suis allée le trouver après qu'il eut si mal accueilli Van Helsing, ses manières étaient celles d'un homme maître de son destin. De fait, il était maître de son destin, mais subjectivement. En réalité, il ne se souciait guère des choses d'ici-bas. Il vivait dans les nuages, et c'est de ce point de vue qu'il considérait nos faiblesses, à nous, mortels. Je me proposais de saisir une occasion pour apprendre quelque chose. « Et ces mouches, qu'en pensez-vous aujourd'hui ?» lui demandai-je. Il me sourit en me regardant d'un air de supériorité, sourire qui aurait convenu à Malvolio. Il me répondit « La mouche, cher monsieur, possède une caractéristique frappante. Ses ailes représentent idéalement le pouvoir aérien des facultés psychiques. Les anciens avaient raison quand ils représentaient l'âme sous la forme d'un papillon. » Je voulus le forcer à poursuivre l'analogie aussi loin qu'il pourrait le faire logiquement. Aussi répliquai-je aussitôt « Oh, c'est donc une âme que vous cherchez à présent ?» Sa folie l'emporta sur sa raison, et la perplexité se lut sur son visage, cependant qu'il disait, en secouant la tête avec un air décidé, que j'avais rarement vu chez lui, « Mais non, mais non, mais non, il n'est pas question d'une âme, c'est la vie que je veux, voilà tout !» Puis ses traits se détendirent, et il reprit. « D'ailleurs, pour le moment, ça m'est égal. La vie, c'est parfait, j'ai tout ce que je désire. » « Il vous faudra un nouveau malade, docteur, si vous voulez étudier la zoophagie. »« Alors, vous disposez de la vie. Vous êtes un dieu, je suppose. » Il eut à nouveau un sourire de supériorité, mais très doux également. « Oh non, loin de moi la pensée de me conférer les attributs de la divinité. Je ne suis même pas en cause pour ce qui est de ces actes spirituels. Si je dois définir ma position intellectuelle par rapport aux choses purement terrestres, elle ressemble à celle qu'Enoch occupait sur le plan spirituel. Tout cela était assez confus pour moi. Au moment même, il me fut impossible de me rappeler le rôle qu'avait exactement tenu Enoch. Il me fallait donc poser une question, quitte à baisser dans l'estime de ce malade. À celle d'Enoch ? Pourquoi ? Parce qu'il marchait avec Dieu. Je ne saisissais pas le rapport, mais je ne voulais pas l'avouer. Je préférais revenir à ce qu'il avait dit précédemment. « Donc, vous ne vous souciez pas des âmes et peu de la vie. Et pourquoi, dites-moi » Ma question, je l'avais posée sur un ton assez abrupt afin de le décontenancer. J'avais réussi, car un moment, et sans s'en rendre compte, il retrouva son attitude humble, s'inclina très bas devant moi et fit réellement le chien couchant tandis qu'il me répondait « Non, bien sûr, je ne me soucie pas des âmes, je n'en veux pas, c'est la pure vérité. » Je ne saurais qu'en faire si j'en avais. Elles ne me serviraient à rien. Je ne pourrais pas les manger, ni... » Il s'interrompit, et son air rusé reconquit soudain son visage, comme un coup de vent balaie la surface de l'eau. « Quant à la vie, docteur, qu'est-ce que c'est, après tout ? Une fois que vous jouissez de tout ce dont vous avez besoin, et que vous savez que vous ne manquerez jamais de rien, que faudra-t-il attendre d'autre ? J'ai des amis, de très bons amis comme vous, docteur. » Il avait dit ceci en me lançant un regard de côté. « Et je sais qu'il ne me manquera jamais rien de ce qu'il me faut, à moi, pour vivre. » Je pense que malgré la confusion de son esprit, il comprit que je n'étais pas prêt de l'approuver, car il se réfugia aussitôt dans un silence obstiné, ce que finissent toujours par faire ses malades. Convaincu qu'il était inutile de chercher à poursuivre l'entretien, je le laissai. Un peu plus tard dans la journée, on va me dire qu'il me demandait. Je ne vais le voir que lorsque j'ai pour cela une raison déterminée, mais ces temps-ci, il m'intéresse à ce point que je ne voulus pas lui opposer un refus. Et s'il faut tout dire, qu'aurais-je fait d'autre pour passer le temps ? Harker est sorti pour faire ses recherches, de même que Lord Godalming et Quincy. Van Helsing, dans mon bureau, étudie les documents qu'ont préparés les Harker. Il espère, dirait-on, que tous ces détails le mettront sur quelques pistes, et il ne veut être distrait de son travail sans raison sérieuse. À vrai dire, j'aurais aimé qu'il m'accompagnât chez Renfield, mais lui-même peut-être n'y aurait pas tenu après leur dernière entrevue. D'autre part, je craignais que Renfield ne parlât plus aussi ouvertement en présence d'un tiers. Je le trouvais au milieu de la pièce, assis sur son tabouret, ce qui, en général, indique chez lui une certaine activité de la pensée. J'étais à peine entré dans la chambre qu'il me demanda, comme si cette question avait été prête sur ses lèvres, « Que pensez-vous des âmes ?» Je ne m'étais pas trompée. Chez le fou, tout comme chez l'homme normal, l'esprit travaille parfois sans qu'il en ait conscience. Mais je voulus en être certain. « Qu'en pensez-vous vous-même » fis-je. Il demeura un moment sans répondre, regardant tout autour de lui, au plafond, puis le long des murs, comme s'il avait espéré qu'une inspiration viendrait lui apporter la réponse. « Je ne veux aucune âme !» me répondit-il doucement, et peut-être pour se disculper d'avance. J'avais l'impression que c'était chez lui une idée fixe, et je décidai de m'en servir. Par la cruauté, on arrive à la bonté. « Vous aimez la vie, et vous voulez la vie, n'est-ce pas ?»« Oh oui, c'est cela, c'est bien cela. La vie, c'est tout ce qu'il nous faut. » Mais comment obtenir la vie sans obtenir l'âme également ? Comme cette question paraissait l'embarrasser, je repris. Je vous souhaite du bon temps quand vous vous envolerez d'ici avec les âmes de milliers de mouches et d'araignées et d'oiseaux et de chats, bourdonnant, gazouillant et miaulant tout autour de vous. Vous leur avez pris la vie. Il faut maintenant que vous acceptiez leurs âmes. Quelque chose sembla frapper son imagination car il se boucha les oreilles et ferma les yeux, les ferma avec le même refus obstiné qu'un petit garçon à qui on savonne le visage. J'en fus profondément touché, et à mon émotion se mêlait le sentiment d'avoir devant moi un enfant. Oui, un enfant, bien que les traits fussent déjà ceux d'un vieil homme, et que la barbe de 3 jours fût blanche. Sans aucun doute, il souffrait en ce moment de quelques nouveaux troubles, et sachant comment, dans ses crises précédentes, il avait interprété certaines choses, qui apparemment du moins ne le concernaient pas, je jugeais prudent d'entrer dans ses vues. Tout d'abord, il fallait lui rendre confiance. Je lui demandais, en parlant assez haut pour qu'il m'entendît, bien qu'il n'eût pas cessé de se boucher les oreilles, « Vous voulez un peu de sucre pour attirer vos mouches ?» Il comprit tout de suite, hocha la tête et me répondit en riant. « Oh, vous savez, les mouches, après tout, ce sont de pauvres petites créatures !» Il se tut un moment, puis ajouta « Mais je ne désire tout de même pas que leurs âmes viennent bourdonner autour de moi. » « Et les araignées ? Je me moque des araignées. À quoi servent les araignées ? Il n'y a rien en elles que l'on puisse manger ou... » Il s'interrompit comme s'il se souvenait soudain qu'il ne devait pas aborder un certain sujet. « Bon, bon, me dis-je, voilà la deuxième fois qu'il s'arrête avant de prononcer le mot « boire ». Pourquoi ?» Lui-même s'aperçut sans doute de l'erreur qu'il venait de commettre en n'achevant pas sa phrase. Et il reprit aussitôt, comme pour détourner mon attention, « Je ne m'intéresse pas le moins du monde à tout ça. Les rats et les souris et tous ces petits animaux, comme écrit Shakespeare. Nourriture de poulet, pourrait-on dire. Pour moi, fini toutes ces sottises. Vous pourriez tout aussi bien demander à un homme de manger des molécules avec des baguettes chinoises que d'essayer de m'intéresser à ces carnivores inférieurs, maintenant que je sais ce qui m'attend. » « Je vois. Ce que vous voulez, ce sont des animaux dans lesquels vous puissiez mordre à pleines dents. Aimeriez-vous que l'on vous apporte un éléphant au petit déjeuner ? Est-ce idiot ? Est-ce ridicule ce que vous dites là ? Je me demande, fis-je, pensif, à quoi ressemble une âme d'éléphant ? J'obtins l'effet désiré, car immédiatement il cessa de monter sur ses grands chevaux et, à nouveau, redevint semblable à un enfant. « Je ne veux pas l'âme d'un éléphant. » dit-il. « Je ne veux aucune âme !» Il resta immobile un instant, sans rien dire, et l'air découragé. Brusquement, il repoussa son tabouret et se leva, les yeux brillants et visiblement en proie à une véritable exaltation. « Allez au diable, vous et vos âmes » s'écria-t-il. « Pourquoi me tourmentez-vous ainsi en me parlant des âmes ? N'y a-t-il pas déjà assez de choses qui me contrarient, me font souffrir, m'affolent, sans que j'aie à penser aux âmes ?» Il paraissait si furieux que je craignis qu'il ne se jetât à nouveau sur moi, dans l'intention de me tuer. Aussi je pris mon sifflet, afin d'appeler les surveillants. Mais aussitôt il se calma, et me dit en s'excusant, « Pardonnez-moi, docteur, je me suis oublié. N'appelez personne, c'est inutile. Mais tant de choses me préoccupent que je m'irrite pour un rien. Si seulement vous saviez le problème que j'ai à résoudre, vous auriez pitié de moi et vous me pardonneriez mes éclats. Je vous en prie, ne me mettez pas la camisole de force. Il me faut beaucoup réfléchir et je ne puis le faire librement que lorsque mon corps lui-même est retenu prisonnier. Cela, je suis sûre que vous le comprenez. Certes, à ce moment-là, il était entièrement maître de soi. Quand les surveillants arrivèrent, je leur dis qu'ils pouvaient se retirer. Renfield les observa tandis qu'ils sortaient de la chambre, et lorsque la porte se fut refermée sur eux, il me dit avec tout ensemble douceur et gravité « Vous avez eu beaucoup d'égards pour moi, docteur. Croyez que je vous en suis très, très reconnaissant. » Je jugeais bon de le laisser dans cette disposition d'esprit, et je le quittai. Le cas de cet homme mérite qu'on l'examine attentivement. Plusieurs points pourraient constituer ce que cet intervieweur américain appelle une chronique, si seulement il était possible de les considérer dans l'ordre convenable. Les voici. Il ne prononce jamais le mot « boire ». Il frémit à la seule pensée d'être encombré de l'âme de n'importe quelle créature. Il ne craint pas de manquer de ce qu'il lui faut à lui pour vivre. Il méprise toute forme de vie inférieure, les petits animaux, encore qu'il redoute d'être hanté par leurs âmes. Logiquement, tout cela signifierait qu'il a la certitude d'accéder un jour à une vie supérieure. Mais il en redoute la conséquence, le fardeau d'une âme. C'est donc d'une vie humaine qu'il s'agit. Et cette certitude, d'où lui vient-elle? Dieu de miséricorde, c'est que le conte est venu à lui. À quelle nouvelle horreur devons-nous encore nous attendre? tard. J'ai mis Van Helsing au courant de mes soupçons. Aussitôt, il a paru très soucieux. Et après un moment de réflexion, il m'a demandé de le conduire auprès de Renfield. Comme nous approchions de la porte, nous l'entendîmes qui chantait gaiement, ainsi qu'il le faisait souvent en un temps qui me semble maintenant fort lointain. Une fois entré, nous vîmes avec étonnement qu'il avait, comme naguère, répandu son sucre sur l'appui de fenêtre. Les mouches, moins nombreuses en cette saison automnale, commençaient à bourdonner dans la chambre. Nous voulûmes lui faire reprendre le sujet de la conversation que je venais d'avoir avec lui, mais en vain. Il continuait à chanter comme si nous n'avions pas été là. Il tenait en main un bout de papier qu'il plia, puis glissa dans un calepin. Nous sortîmes, n'en sachant pas plus que lors de notre arrivée. Nous sommes bien décidés à observer son comportement cette nuit. Lettre de Mitchell, fils et Candy à Lord Godalming. 1er octobre. Milord, nous sommes toujours très heureux de pouvoir vous rendre service. Nous avons le plaisir de répondre aux désirs de votre seigneurie, désirs dont nous a fait part M. Harker, en lui donnant les informations suivantes concernant la vente et l'achat de l'hôtel situé au numéro 347 de Piccadilly. Cette propriété a été vendue par les exécuteurs testamentaires de feu M. Archibald Winter Suffield, un gentilhomme étranger, le comte de Ville, qui a personnellement effectué l'achat et qui a payé comptant, si votre seigneurie veut bien me permettre d'employer une expression si vulgaire. À part cela, nous ne savons absolument rien de cet étranger. Nous restons, Milord, les humbles serviteurs de votre seigneurie. Mitchell, fils et Candy. Journal du docteur Seward. 2 octobre. Hier soir, je donnais l'ordre à un surveillant de rester dans le couloir et de ne pas s'éloigner de la porte de Renfield. S'il remarquait, s'il entendait quoi que ce fût d'insolite, il devait m'en avertir aussitôt. Après le dîner, lorsque nous fûmes tous réunis autour du feu, dans mon bureau, Madame Harker était montée se coucher, chacun de nous expliqua où il avait été ce jour-là, ce qu'il avait fait, ce qu'il avait découvert. En vérité, Harker seul était arrivé à un résultat, et nous sommes tous persuadés qu'il est important. Avant d'aller me mettre au lit, je retournai auprès du surveillant, me demandant ce qui se passait de ce côté. Je regardais moi-même par le guichet pratiqué dans la porte. Renfield dormait profondément. Sa respiration paraissait régulière. Mais ce matin, le surveillant m'a raconté qu'un peu après minuit, il a commencé à s'agiter et n'a plus cessé dès lors de réciter ses prières à haute voix. Quand je lui ai demandé s'il n'avait rien d'autre à me signaler, il s'est contenté de me répondre que c'était tout ce qu'il avait entendu. Je le soupçonnais alors de s'être endormi, et je le lui dis sans embâge. Il nia d'avoir dormi, mais reconnut qu'il s'était assoupi un moment. Pour se fier entièrement à ce que vous dites un homme, il faudrait le surveiller sans cesse. Aujourd'hui, Harker est parti, désireux de suivre la piste qu'il a découverte hier, tandis que Art et Quincy sont allés chercher des chevaux. Godalming juge qu'il serait souhaitable d'avoir des chevaux à notre disposition, car lorsque nous recevrons le renseignement que nous attendons, il n'y aura pas un instant à perdre. Nous devrons, entre le lever et le coucher du soleil, rendre inefficace la terre que contiennent les caisses. De cette façon, nous pourrons capturer le comte dans le moment où il est presque sans pouvoir et sans refuge aucun. Van Helsing, lui, est allé au British Museum afin de consulter des ouvrages de médecine ancienne. Les médecins des siècles passés tenaient compte de certaines choses que nous n'admettons plus aujourd'hui. Aussi, le professeur veut-il rechercher des remèdes contre les sorcières et les démons qui, peut-être, nous seront utiles plus tard. Il m'arrive de penser que nous sommes tous fous et que lorsque nous reviendrons à la raison, on nous aura mis la camisole de force. Plus tard, nous nous sommes à nouveau réunis. Il semble décidément que cette piste soit la bonne, et peut-être ce que nous accomplirons demain sera-t-il le commencement de la fin. Je me demande si l'apaisement que nous observons maintenant chez Renfield n'est pas en rapport avec cette situation. Ses comportements contradictoires ont été liés à tel point aux agissements du comte qu'il peut avoir l'intuition de l'anéantissement prochain de ce monstre. Si seulement nous pouvions connaître ce qui s'est passé dans son esprit entre le moment de ma discussion avec lui et celui où il s'est remis à attraper des mouches, cela nous mettrait peut-être sur la voie. Pour l'instant, il est donc très calme, apparemment. s'écrie. Ne viennent-ils pas de sa chambre ? Le surveillant s'est précipité dans mon bureau pour me dire que Renfield a sans doute été victime d'un accident. Il l'a entendu crier, et quand il est entré dans sa chambre, il l'a trouvé étendu à terre, le visage contre le plancher, et tout couvert de sang. J'y vais immédiatement. »